VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Kinshasa, 11h à Ouagadougou. Le Mozambique et ses partenaires financiers attendent avec impatience l'audit censé faire toute la lumière sur le scandale de la dette cachée par son gouvernement au cœur d'un scandale qui menace le président Philippe Nyusi. Plusieurs fois retardé, la remise au procureur de cet audit est annoncée pour vendredi et nourrit déjà une sourde bataille politique entre le chef de l'État et son prédécesseur Armando Guebuza. Amnesty International et des organisations de la société civile centrafricaine lancent aujourd'hui, 11 mai, une campagne nationale demandant aux autorités de la République centrafricaine de s'engager contre l'impunité en amenant les responsables de crimes graves à répondre de leurs actes. Olivia Chamba, chargée des campagnes d'Amnesty International, explique les enjeux.
La campagne que nous lançons, la justice maintenant pour une paix durable en République centrafricaine, est une campagne qui vise à obtenir justice et réparation pour les victimes. Dans le cadre de cette campagne, nous appelons à veiller à ce que les accusations sérieuses de crimes relevant du droit international et d'autres atteintes aux droits de l'homme fassent l'objet dans les plus brefs délais d'enquêtes rigoureuses, indépendantes mais impartiales. Nous mettons l'accent en fait pour atteindre cet objectif sur deux points clés, notamment le renforcement du système judiciaire national qui a été très affaibli par la crise depuis 2012 et ce renforcement notamment en garantissant le bon fonctionnement des juridictions nationales pour mettre fin au cycle de l'impunité. Mais au-delà de ce volet national de la justice, il est important aussi de veiller à apporter un soutien nécessaire à la Cour pénale spéciale ainsi qu'à la Cour pénale internationale afin que justice soit rendue pour ces milliers de victimes.
Olivia Chamba, chargée de campagne d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. En RDC, Étienne Tshisekedi n'est toujours pas enterré. Plus de trois mois après sa mort, l'UDPS, son parti, a renvoyé à une date ultérieure le rapatriement de sa dépouille à Kinshasa, pourtant prévu pour demain 12 mai. Le parti du défunt se bat plutôt avec le pouvoir en place autour du lieu de l'enterrement et des funérailles. Le compagnon de lutte de l'opposant décédé, François-Xavier Belchika, plaide pour le repos de l'âme de l'opposant historique.
Le pouvoir ne devrait pas avoir peur qu'on puisse rapatrier le corps du président Tshisekedi. Mais l'essentiel est qu'il puisse trouver un accord avec la famille politique du président Tshisekedi et surtout la famille biologique, un lieu où on peut l'enterrer, mais que ce soit sur le sol de ses ancêtres. Nous ne croyons pas que cela soit impossible. Même si aujourd'hui on ne veut pas lui construire le fameux mausolée, l'histoire n'étant pas inerte, si un jour il advient dans ce pays un pouvoir qui reconnaît au président qui s'était dit le mérite de tout son combat. Celui-là pourra très bien construire ce mausolée-là. Qu'on ne fasse pas la confusion, qu'on puisse laisser le président qui s'était dit Wamulumba partir en paix avec la volonté de souhaiter que la terre de ses ancêtres lui soit légère.
François-Xavier Belchika, président du Congrès des démocrates pour le progrès social.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Burkina Faso, les syndicalistes se mobilisent contre une loi qui restreint le droit de grève dans de nombreux corps de la fonction publique. Norbert Ouangré, le secrétaire général adjoint de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs de Burkina Faso, dit non à la proposition déposée sur la table des députés.
Cette proposition de loi a été imaginée en fait pour empêcher les grèves, pour faire en sorte que les grèves ne puissent plus porter fruit. Pour regarder les problèmes qui sont posés, est-ce que c'est des problèmes objectifs ou pas? Et quand vous considérez que dans bien de cas, il s'agit d'engagements qui ne sont pas tenus, on ne peut pas reprocher aux travailleurs de faire beaucoup de mouvements. La proposition de loi, effectivement, est une remise en cause du droit de grève. Elle viole certaines conventions du PIT relatives justement au droit de grève, comme la convention 87, la convention 98. Si on veut nous empêcher juste du droit de grève, nous allons mener la grève.
Norbert Ouangré, le secrétaire général adjoint de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs de Burkina Faso. Les États-Unis vont continuer d'appuyer le Nigeria dans sa lutte contre les extrémistes de Boko Haram et de l'État islamique et l'aider à faire face à la crise humanitaire qui frappe ce pays dans sa partie nord-est. C'est ce qu'a indiqué Brian Nyert, l'un des porte-parole du département d'État américain en Afrique, quelques jours seulement après la libération de 82 filles détenues par Boko Haram pendant 3 ans. Il a été joint à Johannesburg par Abdoudraman Dia.
Pour les États-Unis, l'avenir du Nigeria n'est pas seulement important pour le Nigeria, c'est aussi considérablement pour ses voisins, bien sûr, mais je dirais pour le monde entier. Étant donné la population, l'influence, c'est une économie qui pourrait être très forte, mais aussi c'est un pays qui actuellement fait face à plusieurs défis, y compris ceux qui sont défis de l'insécurité.
Et justement, la lutte contre le groupe Boko Haram et l'extrémisme de façon générale est une priorité pour le gouvernement d'Abuja. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle dynamique dans la coopération militaire entre le Nigeria et la nouvelle administration Trump?
Je dirais, concernant cette situation grave, ce défi difficile au nord-est du Nigeria, vous parlez de Boko Haram et aussi nous parlons du groupe Daesh en Afrique de l'Ouest. Ils ont fait quelques milliers de victimes et eux, ils sont la cause de même de l'insécurité de plusieurs millions de personnes au Nigeria et dans les pays frontières. Nous avons et nous continuons les États-Unis être parmi les bailleurs de fonds les plus importants aux questions d'aide humanitaire, mais aussi les États-Unis aident le gouvernement, les autorités nigériennes en tant que conseil et renseignement pour faire face à ces groupes extrémistes violents. Et ça continue, ça va continuer parce que, comme je disais, ce défi n'est pas uniquement un problème pour les Nigériens, mais c'est pour toute la région.
Et vous parliez tout à l'heure de la crise humanitaire. Quel est l'apport aujourd'hui des États-Unis dans l'aide des gouvernements de la région du lac Tchad?
Les États-Unis fournissent déjà près de 500 millions de dollars d'aide humanitaire au cours de 2 dernières années aux personnes affectées dans ce conflit. Ça continue. Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres bailleurs de fonds, il y a d'autres partenaires. Je voudrais souligner pour les États-Unis que c'est les Nations Unies qui jouent un rôle très important pour confronter ces conditions proches de la famine.
Le président américain Donald Trump est pris dans une tempête politique depuis qu'il a limogé le directeur du FBI, James Comey, une décision, selon lui, sans lien avec l'enquête de la police fédérale sur une éventuelle collusion avec la Russie. Des élus des deux partis s'interrogent depuis mardi soir sur les motifs et le calendrier du limogeage. L'opposition soupçonne le président américain de vouloir entraver une enquête qui entache son nom et cible certains de ses proches. Le directeur par intérim du FBI, Andrew McCabe, doit témoigner publiquement aujourd'hui devant la commission du renseignement du Sénat, l'une des 3 commissions enquêtant sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine. À Washington, il est 7h08.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les présidents chinois Xi Jinping et sud-coréen Moon Jae-in sont d'accord sur le fait que la dénucléarisation de la Corée du Nord est un objectif commun, a affirmé aujourd'hui le bureau du nouveau chef de l'État sud-coréen. Les relations entre Pékin et Séoul se sont tendues ces derniers mois du fait du déploiement en Corée du Sud d'un bouclier antimissile américain, THAAD. Il est censé permettre de contrer la menace balistique nord-coréenne, mais la Chine est vent debout contre ce dispositif qui entame, selon elle, ses propres capacités militaires. Pékin a pris une série de mesures contre les entreprises sud-coréennes, considérées à Séoul comme des actes de représailles économiques. Des responsables yéménites entrés en opposition au président Abd Rabo Mansour Hadi ont annoncé aujourd'hui la création d'une autorité parallèle appelée à administrer le sud du pays. L'ancien gouverneur d'Aden, Haidarous al-Zubaydi, limogé fin avril par le président Hadi, a annoncé la mise en place d'un conseil de transition du sud placé sous sa présidence pour diriger les provinces du sud et les représenter à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ce conseil est doté d'une présidence de 26 membres, dont les gouverneurs de 5 provinces du Sud et 2 ministres du cabinet de M. Hadi, a ajouté M. Zubaydi dans un communiqué. Et pour terminer, en France, le mouvement politique d'Emmanuel Macron, La République en marche, dévoile aujourd'hui une première liste de ses candidats aux législatives de juin, un test qui doit montrer la capacité du nouveau président français à renouveler et à rassembler. La passation de pouvoir aura lieu dimanche entre François Hollande et Emmanuel Macron, qui doit ensuite annoncer le nom de son premier ministre. Vous êtes bien sûr VOA Afrique. C'est terminé pour ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.